46 pouces du micro. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'allumer votre micro quand vous parlez. N'oubliez pas de l'éteindre quand vous avez terminé. Nous voulons qu'il y ait une discussion qui soit ouverte. Et nous voulons bien sûr avoir toutes vos perspectives sur la réforme du droit d'auteur. Même pour s'assurer que nous avons une réunion productive et parce que nous voulons avoir le temps d'entendre tout le monde, je vais vous demander de vous assurer que vos commentaires sont assez concis et surtout qu'ils soient ciblés sur la question qui nous concerne. Donc, on va vous demander donc d'essayer de vous limiter à 3 minutes pour vos commentaires. Nous utilisons les services d'interprétation et les micros parce que la discussion va être enregistrée cet après-midi. Et comme nous l'avons indiqué dans l'invitation que nous avons envoyée, cette discussion sera éventuellement postée dans les deux langues officielles sur le site de la consultation sur les droits d'auteur. Ce sera à la fois peut-être intervenir, certainement en tout cas pour vous demander de conclure vos commentaires afin que tout le monde ait le temps, encore une fois, de partager sa perspective. Je vous demande, s'il vous plaît, d'éteindre vos BlackBerry parce que ça va interférer avec l'équipement d'enregistrement. Merci. Donc, avant que M. Lake ne commence avec ses commentaires, si on pouvait avoir un petit tour de table ici, donnez-nous votre nom et indiquez-nous qui vous représentez. Je vais donc passer à ma droite ici. Je m'appelle Barbara Montney. Je travaille pour Patrimoine canadien et je travaille à la direction des droits d'auteur, Linda Cameron. Je travaille à l'Université d'Alberta. Je m'appelle Shane Kennedy. Je travaille à la Book Publisher Association of Alberta. Bonjour. Je m'appelle Ernie Ingalls. Et je suis le professeur à l'Université de l'Alberta à la bibliothèque. Monica Sheck, je ne représente que moi-même, je suis artiste. Jane Brisby, je représente la Alberta Motion Picture Industry Association. Je m'appelle Chris Anderson et je suis le directeur de recherche pour le syndicat des étudiants de l'Université de l'Alberta. Je m'appelle Alexandra Hatcher, je suis la secrétaire de la Alberta Museum Association. Rick Leach, et je représente la Library Association of Alberta. Bon après-midi à tous. Et je travaille au bureau de Mike Lynn. Je m'appelle Mike Lake. Je suis le député pour Edmonton Maui Beaumont. Je suis aussi secrétaire parlementaire au ministère de l'Industrie. Je vais prendre le micro pendant quelques minutes. Après que nous ayons fini mes commentaires, nous allons revenir avec Linda. Et ensuite, nous allons faire le tour de table et demander à tout le monde d'articuler certains commentaires. Donc, peut-être nous donner vos commentaires pour introduction. Donnez-nous votre point de vue sur la question de la réforme des droits d'auteur. Et ensuite, nous aurons une discussion animée, je l'espère, sur un point qui est vraiment un point de discussion. Ça va être intéressant pour tous ceux qui vont pouvoir suivre vos commentaires en ligne, qui vont pouvoir également lire la transcription. Je veux d'abord commencer par vous remercier tous d'être venus ici. Notre gouvernement est très content de pouvoir tenir ce processus de consultation publique sur la modernisation de la législation sur le droit d'auteur. Nous apprécions énormément votre participation à la session d'aujourd'hui. Nous avons eu des réunions de ce genre dans l'ensemble du pays. Nous voulons entendre tous les Canadiens sur ce point. Je crois que tout le monde a eu l'occasion de lire les transcriptions et de suivre ce qui s'est passé. Mais nous voulons nous assurer que tous les Canadiens ont l'occasion de présenter leur perspective sur la manière dont on devrait réformer la loi sur les droits d'auteur. Nous profitons de la technologie pour permettre au plus de monde possible de participer à ça. Nous avons déjà reçu plus de 1000 soumissions sur le site web. Nous avons également reçu des soumissions par écrit et aussi la participation directe. Il y a beaucoup de conversations qui se produisent. Le forum en ligne permet aux utilisateurs de commencer leur propre ligne de conversation. Nous avons déjà reçu plus de 1500 commentaires dans ces discussions. Les flux RSS et Twitter ont permis aux Canadiens de s'assurer qu'ils pouvaient suivre les derniers développements. Et les consultations qui ont commencé il y a 4 semaines sont maintenant à peu près rendues à la moitié. Jusqu'à présent, la réponse a été formidable, la rétroaction a été très constructive et c'est un processus dont nous pouvons certainement être très fiers. J'espère que nous allons pouvoir continuer. Ces discussions vont permettre à notre gouvernement de mettre sur pied une modernisation, une réforme de la droit d'auteur qui va nous permettre d'être vraiment à la fine pointe de la législation dans ça. Nous attendons avec impatience d'entendre vos perspectives pour voir de quelle manière nous pouvons le mieux moderniser cette législation. Donc, je vais maintenant passer le micro à Linda. Et c'est Linda qui va nous parler du point de vue de la University of Alberta Press. Je voudrais remercier le ministre de nous donner cette occasion de parler au sujet de la réforme du droit d'auteur parce que c'est un sujet très intéressant. J'ai à peu près 6 ou 7 points dont j'aimerais parler très rapidement. La première chose, c'est que le futur, c'est une industrie qui est basée sur la connaissance. Ensuite, la législation sur le droit d'auteur, ça rend cette industrie possible. Je veux aussi que vous sachiez exactement d'où nous venons. Et la protection technique est quelque chose d'important. J'aimerais simplement lire ça pour qu'on puisse passer au travers de mes commentaires très rapidement. Et ensuite, je serai ravie d'en discuter plus tard. Alors, les choix du gouvernement sur les droits d'auteur auront beaucoup de répercussions sur notre avenir. Ces choix vont affecter la manière dont les histoires vont être racontées et la manière dont l'information est transmise. Notre culture et notre économie ont des intérêts très importants dans les discussions qui ont lieu à l'heure actuelle. Donc, il est tout à fait approprié que le ministère du patrimoine canadien et de l'industrie se soit joint pour rassembler des informations sur ce que les Canadiens veulent au niveau de la réforme du droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur, c'est un droit de propriété qui est donné à un auteur pour une certaine période de temps de pouvoir publier, enregistrer des œuvres, qu'elles soient artistiques, littéraires ou autres. Alors, la matière brute de futur, eh bien, c'est le savoir. Assurer qu'on a un environnement de soutien qui est nécessaire pour le soutien de ces entreprises, c'est quelque chose de très important si on veut avoir une bonne économie. Je vais vous donner 2 exemples maintenant de propriété et du droit d'être compensé pour l'utilisation. Je pense que vous allez comprendre ce dont je parle. Imaginez que vous êtes un agriculteur. C'est vous qui labourez le sol, c'est vous qui choisissez les graines, vous les plantez, vous les irriguez. Et finalement, vous êtes au point de récolter tout ça et de gagner de l'argent. Soudainement, les foules de gens ont le droit de venir sur votre terre et de prendre tout ce qu'ils veulent dans votre récolte. Et on leur donne le droit de ne pas payer. Est-ce que vous auriez l'argent et surtout le cœur de pouvoir recommencer? Imaginez que vous êtes une personne d'affaires, vous avez un produit tout à fait unique à vendre, vous explorez tous les marchés, vous établissez des contrats avec vos fournisseurs et vous faites toute la promotion du produit. Et au moment où vous êtes sur le point d'ouvrir les portes de votre magasin pour accueillir des clients, toute une foule arrive avec autorisation, ils ont le droit de rentrer dans votre boutique, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent de votre produit unique, mais sans payer pour ça. Est-ce que vous auriez l'argent et le cœur de recommencer votre entreprise? Je peux vous dire que moi, j'ai été agricultrice et aussi une femme d'affaires et que dans ces circonstances, je ne recommencerai pas. Alors, le savoir, c'est le produit de la recherche et de l'expérience. Ça prend beaucoup de travail laborieux. Ça a une certaine valeur. Et les gens qui investissent dans la création du savoir, que ce soit les personnes d'origine, les auteurs, etc., ainsi que les distributeurs et les éditeurs comme moi, eh bien, nous avons besoin de votre engagement à protéger nos droits afin que nous puissions protéger l'investissement que nous faisons. Je voudrais ici citer Caroline Wood, qui est la directrice exécutive de l'Association canadienne des éditeurs, qui a parlé à Winnipeg. Elle a dit la législation sur le droit d'auteur, c'est quelque chose de très important. Le droit de vendre des copies d'œuvres qui sont protégées par des droits d'auteur, c'est notre seule source de revenus en tant qu'éditeur. Nous n'en sommes pas propriétaires, donc c'est très important pour nous. Dans les tables rondes précédentes, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la question de l'utilisation équitable. À l'heure actuelle, ces dispositions permettent aux utilisateurs de faire une copie unique des parties d'œuvres dans un but de recherche ou d'éducation. Et on veut élargir la portée de ces dispositions. C'est très important de conserver les choses telles qu'elles sont pour les maisons d'édition à l'heure actuelle au Canada. Pourquoi? Si on élargit la portée des dispositions sur l'utilisation équitable, eh bien, ça va avoir des répercussions immédiates sur l'industrie des maisons d'édition. Ça va avoir des répercussions au niveau des ressources financières. S'il n'y a plus de maisons d'édition canadiennes, eh bien, ça veut dire que de nombreux auteurs canadiens ne pourront plus être distribués. Deuxièmement, il doit y avoir un respect pour les droits de propriété et c'est vraiment ce que c'est, le droit d'auteur. Ça va être diminué si on fait ça. J'ai presque terminé maintenant. À l'heure actuelle, nous avons la bonne chance au Canada d'avoir une société de protection des droits d'auteur. Son but, c'est de s'assurer que l'accès au matériel protégé est facilité et à un prix raisonnable. Bien sûr, on ne veut pas donner gratuitement le droit d'utiliser du matériel qui appartient à d'autres personnes. Selon Royal Levy, qui est le directeur général de cette collecte, de cette société, c'est tout, les auteurs, les enseignants et toutes les personnes qui ont accès comme ça au Canada à toutes ces œuvres d'art, ils ont accès de manière très libre à l'heure actuelle, mais il faut s'assurer que les auteurs sont rémunérés de manière adéquate. Nous n'avons pas besoin d'une exception élargie au niveau éducatif parce qu'il en est déjà une très bonne. En conclusion, je voudrais parler des mesures de protection électronique pour protéger les œuvres. Là, encore une fois, je vais vous donner un exemple. Ça serait l'équivalent, disons que quelqu'un passe devant votre maison et il voit quelque chose sur votre table qui les intéresse. Cette personne aurait le droit de simplement rentrer dans votre maison et de prendre cet objet. Si vous donnez le droit aux gens de dépasser les mesures électroniques de protection, ce serait la même chose. Je ne crois pas que c'est la bonne manière d'approcher les choses. Donc, en conclusion, j'aimerais que tout le monde ici pense et se rappelle que notre capacité d'être en concurrence avec le reste du monde, eh bien, elle repose sur les décisions qui vont être prises lors de cette réforme. Donc, s'il vous plaît, tenez compte des répercussions que va avoir toute réforme du droit d'auteur sur nos industries. Je vous demande donc de voter de manière sage. Ce n'est pas une question des répercussions sur notre industrie, mais aussi sur nos histoires, notre culture. Merci beaucoup. Je crois que ce que nous allons faire, nous avons dépassé les 3 minutes. Nous allons dire peut-être maintenant 3 à 5 minutes. Je crois que tout le monde a quelque chose à dire sur cette question. Et ensuite, nous passerons à la discussion. Je veux simplement être équitable ici. Vous voyez ici, ça devant moi. Lorsqu'il vous restera 1 minute, la lumière va devenir jaune. Non, à 2 minutes, la lumière va devenir jaune. Et ensuite, quand ça devient rouge, ça veut dire que vous n'avez plus de temps. Alors maintenant, on va vous passer le micro. Shane, allez-y.
Merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler. Nous sommes tous très intéressés par ce que vous faites. Vous avez parlé plus tôt. Il semble bien que votre cœur est au bon endroit. Vous comprenez bien ce monde fort complexe auquel on est confronté. Je suis, quant à moi, l'éditeur et le propriétaire de Long Pine Publishing, leader nord-américain de livres d'histoire et d'activités d'extérieur. Nous avons publié un grand nombre de livres au cours des dernières années, mais je parle ici au nom de l'Association des éditeurs de l'Alberta. Pour ce qui est du droit d'auteur, j'aimerais parler des questions de l'inclusion dans la clause telle que de l'utilisation des TPM et voir comment on pourrait voir l'évolution de l'édition pour fournir un modèle qui pourrait être utilisé pour les utilisateurs ainsi que pour les propriétaires, les gens qui ont des droits d'auteur. Dans le cadre de cela, donc, disons qu'on vient de publier ce livre. Nous avons passé 9 ans à consulter les communautés autochtones sur l'utilisation des plantes, ensuite à rédiger le tout. Et nous avons imprimé 11 000 copies pour mettre ça dans nos entrepôts. Or, je peux mettre la clé dans l'entrepôt. Ça peut me prendre 5 à 6 ans pour vendre ces 11 000 livres-là et encore plus de temps pour retrouver mes frais-là. Nous savons que nous allons publier dans un monde numérique. Alors, il est important de comprendre que le monde numérique qu'on crée, l'économie qu'on crée dans ce sens-là. Mais si nous donnons trop de permissions dans ces clauses telles que, le « such as » en anglais, telles que l'utilisation de violer des TPM, c'est comme par exemple, ça veut dire que la copie est copiable à l'infini. Et bon, il faut être équitable, c'est très bien quand on a tout défini de façon claire, mais pas lorsque c'est étendu vaguement. L'inclusion du terme tel que, ça nous oblige à nous battre pour nos droits sans la protection d'une loi bien précise pour nous défendre. Nous ne pouvons nous permettre de protéger ce livre d'utilisation illégitime qui serait protégé par cette clause telle que lorsqu'on pense à Google, par exemple, essayer de faire reculer les limites du droit d'auteur aux États-Unis, essayer au niveau des cours d'instance inférieure d'avoir un règlement de façon à établir un précédent. Dans le cas du règlement de Google, ça a coûté 45 millions de dollars. Ça, c'est frais juridiques. On ne pourra pas payer ce genre de frais d'avocat pour nous payer lorsque une compagnie très riche nous conteste parce que nos lois ne sont pas assez strictes. Il faudra peut-être capituler. Donc, ces choix-là pour nous, comme pays, comme culture, devraient être faits par le gouvernement, par le législateur, par la question de savoir de celui qui a donc le plus de moyens financiers. C'est pourquoi vous avez vos consultations, là. Et je comprends très bien, j'apprécie, là, que ce que vous faites, vous essayez donc d'avoir des lois qu'il nous faut. Nous cherchons des raisons ou une situation qui reflète bien notre situation comme peuple et comment nous espérons fonctionner dans ce nouvel univers de propriété intellectuelle. Des clauses trop vagues telles que la clause telle que là, nous force à nous défendre avec de l'argent qu'on n'a pas. Certains groupes d'utilisateurs prétendent que l'érosion de la protection offerte par la loi est appropriée pour avoir plus d'accès aux œuvres numériques. Mais l'infrastructure et l'innovation, les programmes, les systèmes administrés par les compagnies et les groupes collectifs commencent à émerger. Ça a beaucoup changé ces dernières années. Quelqu'un a dit récemment que ça a changé plus dans les deux dernières années que dans les 200 dernières années. Donc, nous essayons de nous rattraper et ça va dépendre du modèle là, qu'on va nous présenter, qui va être très différent dans quelques années. Vous allez présenter une législation qui va nous orienter pour les années à venir. Nous inventons un système pour que nos travaux soient disponibles, une plateforme électronique qui respecterait les arrangements pour l'utilisation équitable. Bon, le travail des organisations permettra qu'on ait l'accès. La plupart des éditeurs que je connais se préparent et la structure va bientôt exister. Ma société a déjà engagé 375 de nos livres à être numériques, mais dans une certaine mesure, on se retient parce qu'on attend de voir ce que vous allez faire. On sait que la forme physique, on pourrait protéger ces livres-là, mais si on les laisse sortir trop vite et si je n'ai pas la protection sous forme numérique et qu'il y a érosion de mon marché, là, j'aurais plus assez de création, peut-être, pour survivre aux prochaines décennies. Je devrais peut-être rendre public là où les livres, là, sous forme, diverses formes. On devait créer une économie de propriété intellectuelle dans laquelle on pourrait vivre et investir, sachant qu'il y a là une ressource et qu'un rendement possible sur l'investissement. On attend de voir le projet, donc de nouvelles lois. S'il y a une protection appropriée, on fonctionnera. Sinon, j'essaierai de tout protéger. Alors là, j'utilise des métaphores là, que l'interprète n'a pas le temps d'interpréter, mais je vais avoir des façons d'investir dans bien d'autres titres. Certains prendront 9 ans pour développer. Alors, pour terminer, donc, je veux vous remercier de votre sensibilité à ces questions-là et veillez respecter le fait qu'on ne voudra pas violer nos TPM, à moins que ce soit une utilisation équitable, et on ne voudra pas voir des clauses telles que soient si vagues que Google pourra nous contester, qu'on pourra se battre, on devra se battre, donc. Bon, très bien. Mais voilà, la technologie est l'essence du droit d'auteur, je suppose. Merci beaucoup de l'invitation. Ma carte dit que je viens de la Bibliothèque de l'Université de l'Alberta, mais en fait, je suis ici à titre de vice-provost de l'Université de l'Alberta, que je représente, soit 50 000 personnes environ, qui qui constitue cette communauté sur cette question-là. Pour ce qui est du droit d'auteur, l'Université de l'Alberta a des créateurs, des éducateurs, des consommateurs et des profs, évidemment. Les consommateurs doivent souvent appliquer le droit d'auteur ainsi que les règles et les restrictions en matière de licence et de contrat. Dans mon portefeuille, il y a la responsabilité d'administration des droits d'auteur, donner un soutien, un avis et de l'information à ces personnes-là. Dans ce processus de consultation, il semble y avoir un thème qui revient, qu'on veut des mesures équitables, on veut utiliser le droit, mais les établissements d'enseignement veulent quelque chose pour rien. Je peux vous dire, moi, que cette perception-là est erronée. Notre établissement et bien d'autres, je suis sûr, indemnisent les propriétaires de droits d'auteur au titre de licences, redevances, contrats, etc. Beaucoup de personnes agissent de bonne foi, c'est notre expérience, pour essayer de faire la bonne chose. On voit les difficultés de ces gens-là qui essaient d'agir de bonne foi et qui font face à des contrats restrictifs, à des régimes de licence, à des monopoles, ainsi qu'à des interprétations restrictives de la loi, y compris l'utilisation équitable. Ces personnes-là essaient de se conformer à ces modalités-là, mais beaucoup de publications, et je dirais même de propagande, pas au sens péjoratif, mais données aux gens d'éducation pour appliquer le droit d'auteur, ont souvent appuyé la stratégie pour éviter le risque. Il y a 5 ans, depuis qu'une décision a été rendue par la Cour suprême qui a dit que la recherche ne doit pas être interprétée de façon restrictive. On continue à voir ce genre de tournure d'esprit-là chez les universitaires. Certains, cependant, ont commencé à utiliser leur droit de fonctionner de façon équitable avec le post-CA, mais beaucoup ne le font pas. Ils ont des craintes, et ces craintes sont attribuables à la loi sur le droit d'auteur. Les réformes à la loi doivent s'assurer que la loi est en place, qu'elle soit suffisamment flexible pour s'adapter aux nouvelles façons de donner des cours et d'éducation, représenter pas seulement les droits des auteurs, mais respecter les besoins des étudiants modernes et ceux qui les servent. De plus en plus, les instructeurs reconnaissent que les gens qui apprennent privilégient l'enseignement non traditionnel. Or, c'est pratique non traditionnelle, donc, et ça adapte des outils tels que les webcasts, les jeux numériques, et ainsi de suite. On travaille avec les étudiants en utilisant des réseaux sociaux, webcasts, Twitter, etc. Beaucoup d'enseignements et de recherches donc continuent à se faire dans la salle de classe, c'est vrai. Mais l'apprentissage se fait aussi dans le monde virtuel. Les choses disponibles en classe sont maintenant souvent utilisées dans des façons bien différentes. Nous avons identifié bien des façons qui devraient être prises en compte dans cette réforme et vous allez recevoir un mémoire de l'université qui en parle davantage, qui donne des explications plus approfondies que mes commentaires d'aujourd'hui. On parle par exemple de la façon de contourner les lois en matière numérique, la reconnaissance que toutes les personnes qui vivent avec des handicaps, y compris, mais pas seulement les gens qui sont handicapés sur le plan perspectif, devraient avoir le droit d'avoir accès à ces choses-là dans un format qui correspond à leurs besoins. Que le droit d'auteur de la couronne soit aboli ou soit rendu plus disponible aux Canadiens par certaines formes de licence, là. Mais si il y avait seulement une chose qui sortait de cette réforme-là, ce serait l'abolition de ce droit d'auteur de la couronne. Parce que les motivations dans ce contexte-là sont très différentes de ce qu'elles sont discutées par mes collègues aujourd'hui. Les gens qui utilisent les bibliothèques pourraient recevoir des copies, donc des prêts faits par les bibliothèques, ce qu'on ne peut pas faire à l'échelle du monde. Les dommages statutaires pourraient correspondre aux pertes réelles subies par des gens qui agissent de bonne foi lorsqu'ils croient qu'ils le traitent de façon équitable avec des documents. Donc, les contrats et les licences que ne mettent pas en danger la capacité des gens d'exercer leurs droits équitables. Et que les exceptions en matière d'éducation soient modifiées pour refléter le déplacement de l'apprentissage de la salle de classe à d'autres façons, y compris l'apprentissage à distance. Et surtout, peut-être encore plus important, nous recommandons fortement d'ailleurs de parler beaucoup de ce qui a été mentionné dans le processus de consultation, c'est que les mots tels que le Satchel soit incorporé dans le texte de loi, la façon que la liste des buts équitables soit pas exhaustif. Il est ironique qu'en utilisant les mots tels que Satchel, vous rendez le tout plus explicite que ce que vous ne pourriez le penser. Le côté implicite de l'absence de ces mots-là, c'est ça qui cause la confusion en ce moment dont je viens de parler. Le but des recommandations faites aujourd'hui, ce n'est pas d'encourager une attitude de laisser-faire ou d'encourager la contrefaçon dans l'éducation, mais nous voulons avoir une réforme raisonnable de la loi qui fait qu'on n'est pas fixé sur les règles et les restrictions, mais plutôt sur l'innovation et le partage des connaissances. Merci, merci Ernie. Et maintenant, nous allons changer de côté de la table pour passer à Myrna. Le microphone, madame, s'il vous plaît. Bien, alors, merci de m'avoir invité. Ça ne compte pas, dit-elle. Linda Peart n'a pas entendu de quoi elle parle. Merci de l'invitation. Je suis très heureuse parce que je suis la seule créatrice ici. Et je signale d'ailleurs que je suis la seule à payer ce qu'il en coûte pour être ici aujourd'hui, de ma poche. Ce que je vais vous dire correspond un peu avec ce que Linda Cameron a dit. J'en suis heureuse parce qu'elle est une de mes éditrices. Je suis écrivain professionnel depuis bien des années. J'ai écrit de nombreux articles, livres. J'ai été présidente de Writers Guild of Alberta et présidente aussi du Writers Guild of Canada. Et je me suis adapté à toutes les nouvelles technologies qui ont beaucoup changé la nature de mon travail. Donc, j'ai passé de la machine à écrire à tous les gadgets modernes. Donc, maintenant, les disques mous ont changé mon travail, mais rien n'a eu l'impact de l'Internet. Certains disent que c'est l'innovation la plus importante touchant les écrivains depuis la presse à écrire. Ça affecte la façon dont les livres et les revues sont produits, lus, distribués. Ces activités-là sont dans le cadre du marché, ça a donc d'implication commerciale. C'est la façon dont je gagne ma vie comme écrivain. Là, connaît des changements importants, ça a une implication importante sur ma survie économique. Donc, le droit d'auteur, c'est le fondement légal ou juridique qui permet aux écrivains d'être indemnisés de leur travail. Mais aujourd'hui, la technologie numérique veut dire que les copies du travail peuvent être faites sans fin et partagées gratuitement. D'une part, donc, cette nouvelle capacité de partager de l'information, des idées, de la créativité globalement, c'est emballant, bien sûr, pour les écrivains et pour les consommateurs, j'en conviens. En revanche, cette livraison gratuite de ces produits-là, c'est un problème, évidemment, pour les créateurs. La culture Internet a évolué de façon telle que les utilisateurs prennent pour acquis que ce qu'ils lisent, là, c'est gratuit. Et que ça leur arrive à l'écran, là, comme ça, et sans penser que ça a été créé par quelqu'un, créé donc par un écrivain professionnel. De toute façon, ils ne veulent pas payer pour télécharger. Un rapport récent de la Commission européenne sur la concurrence en matière numérique dit que le tiers de la génération numérique ou des gens là, qui ont grandi avec l'Internet sont peu disposés à payer quoi que ce soit pour la production culturelle. Certains activistes Internet veulent que toute la production culturelle soit gratuite. D'autres disent que l'utilisation équitable devrait être élargie pour inclure plus de choses couvertes par le droit d'auteur, que ce soit les livres, la musique, etc. Ils disent qu'ils combattent les intérêts des grandes sociétés commerciales, mais en fait, ils affectent les créateurs de ces œuvres-là et forceront les créateurs de traiter leur travail comme un hobby, un violon d'ingres, et de trouver d'autres façons de gagner leur vie. Les gens qui travaillent dans les écoles et les bibliothèques, qui sont souvent les gens qui les introduisent à leur culture-là, devraient fournir aussi leurs services et renoncer à leur salaire. Les écrivains et d'autres ont le droit d'être rémunérés de leur travail. Ils en ont besoin, d'ailleurs, pour continuer à produire. Ça a été dit déjà, je ne me répéterai pas. Si le taux de rendement des jeunes écrivains est près de zéro, comment est-ce qu'on va assurer avoir une nouvelle génération d'écrivains? Le premier principe du droit d'auteur, c'est d'encourager la production culturelle. Bon, mais comment est-ce qu'on va les encourager à commencer à faire la publication si leur travail n'est pas protégé suffisamment à l'Internet? Les arguments pour l'utilisation gratuite de ces œuvres-là sont des exceptions dans la loi du droit d'auteur continue d'être encouragé par les ministères de l'Éducation des provinces. Et là, il y a encore un conflit d'intérêts entre les écrivains et d'autres. Là. Et s'il y a d'autres exemptions du droit d'auteur, ben ça ne fonctionnera pas de façon équitable. Bon, l'utilisation équitable telle que ça existe dans notre loi fonctionne assez bien. Ça n'a pas besoin d'être révisé. C'est seulement à l'occasion que les cours canadiennes ont été invités à établir l'équilibre entre les créateurs et les utilisateurs. N'oublions pas non plus que les écrivains sont aussi des utilisateurs. Ils utilisent les choses couvertes par le droit d'auteur et rédigées par d'autres. Alors, donc, je ne manque pas de sympathie par rapport aux exigences, aux demandes pour libérer des choses sur l'Internet. Mais là où les gouvernements doivent innover, c'est d'introduire une loi qui va renforcer les licences collectives. Et là, je répète un peu ce que Linda a dit sur l'accès aux droits d'auteur. J'aime bien le chèque que je reçois. Et la conclusion, donc, les écrivains ne veulent pas de mesures punitives contre ceux qui veulent partager avec d'autres des travaux qu'ils ont aimés ou les empêcher de partager dans d'autres. Quand dans la mesure où des mécanismes existent, qui veut dire que les écrivains vont être rémunérés de leur travail, que les sociétés collectives peuvent être payées pour leur travail qu'ils doivent avoir donc un cadre qui permette aux gens donc d'être rémunérés correctement.
Nous allons maintenant passer à Jane. Je vais essayer d'être plus rapide. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Merci d'être venu jusqu'en Alberta. Je vais essayer d'être assez rapide parce que je suis très intéressée par ce que vous avez à dire sur la direction dans laquelle nous allons. Et beaucoup de ce que j'allais dire, eh bien, ça a déjà été dit. Eh bien, notre industrie, ça représente à peu près 250 membres, c'est-à-dire 3500 personnes qui travaillent dans un secteur très difficile. Nous, tout notre produit, c'est un produit qui est numérique, donc on ne peut même pas l'enfermer dans un entrepôt dès le départ. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai beaucoup apprécié votre exemple d'une exploitation agricole, mais ça ressemble un peu à ce que nous on fait. Nous, on a des membres qui ont ils prennent une propriété intellectuelle, ils ajoutent de la valeur et ils en font un article culturel et ensuite ils le mettent sur le marché. Et malheureusement, c'est une question de propriété intellectuelle et comme Yona l'a déjà dit de manière très éloquente, eh bien, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. C'est très difficile pour les gens de comprendre que c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est un bien qui a de la valeur. Il y a des gens qui essaient de gagner leur vie en créant cet élément de propriété intellectuelle. Ça représente un véritable défi lorsque les gens, dès le plus jeune âge, ne comprennent pas c'est quoi la différence entre ce qui est dans le livre et que ce qui est sur un CD, ce qui est dans un livre. Ça ne leur appartient pas. En fait, ils le louent, si on peut dire d'une certaine manière. Ils sont entrés dans une entente où on leur permet d'utiliser ça. Ils ont le droit d'utiliser ça, mais en fait, ça n'est pas leur propriété. C'est une notion qui est très difficile pour la majorité du grand public à comprendre. Mais pourtant, il faut absolument qu'on arrive au point où soit ils vont comprendre ça, ou alors il va falloir qu'on trouve un autre moyen de reconnaître la valeur de ce bien. Que les écrivains fassent ça pour un livre ou pour un petit écran, il faut absolument qu'ils soient reconnus. Je veux dire, il y a des gens qui doivent être payés. Il faut absolument qu'on résoudre cette question, et ça de manière équitable. Il faut que cette question de l'utilisation équitable, eh bien, ça fonctionne bien pour les deux côtés. Bien sûr, les gens qui font partie de l'association veulent partager leurs produits, mais ils veulent aussi pouvoir protéger les droits qu'eux, ils ont acquis. Ce sont des droits qui sont définis comme une propriété intellectuelle. Donc, si l'industrie est axée sur le savoir, ça représente l'avenir, eh bien, dans ce cas-là, il nous faut absolument trouver une manière de protéger cette transaction. C'est une transaction entre un utilisateur et un consommateur, ou je devrais dire plutôt un consommateur et un producteur. Et il nous faut absolument, par l'intermédiaire de la législation sur le droit d'auteur, trouver une manière pour les deux parties d'être traitées de manière équitable dans cette transaction. C'est bon? Donc, nous allons passer à Chris maintenant. Je ne vais pas non plus prendre beaucoup de temps. Monsieur Ingalls a fait vraiment du bon travail. Il a expliqué tout ce que nous avions à dire, donc je le remercie. L'intérêt principal pour les étudiants dans ce débat et dans la réforme qui va avoir lieu, ça n'a presque rien à voir avec les iPod. Les étudiants, ils représentent la prochaine génération de producteurs. Donc, ils veulent que leurs droits soient protégés tout à fait comme la génération actuelle de producteurs. Mais en même temps, en tant qu'étudiants, ils veulent pouvoir faire la recherche de manière efficace. Et je crois que c'est un élément tout à fait central. Je crois que le ministère témoigne certainement de l'intérêt qu'il a pour le point de vue des étudiants, vu que vous avez demandé à tout le monde de participer. Nous ne voulons pas, bien sûr, donner la clé à tout le monde, la clé de l'entrepôt à tout le monde dans le cadre de cette réforme. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. Mais il faut absolument qu'on puisse faciliter la recherche, l'enseignement, et ça avec les technologies d'aujourd'hui et les technologies de demain. Ce que l'on cherche, si je peux résumer, nous voulons avoir une interprétation plus libérale du droit d'auteur dans ce prochain projet de loi. Il y a plusieurs raisons pour ça. Étant donné que la nouvelle génération d'étudiants, ce sont aussi des créateurs de contenu, ils veulent avoir le droit de partager ça, ils veulent avoir la capacité de s'assurer qu'ils sont compétitifs dans l'industrie mondiale qui existe. Ça dépend pour eux. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient accès à un système d'éducation postsecondaire qui soit efficace et productif. Bien entendu, avoir accès à tout le matériel nécessaire, c'est important et vital pour la recherche. Je crois que ça se révélera davantage lorsqu'on va entamer la discussion, mais c'est essentiellement le point de vue des étudiants. Je devrais simplement remarquer ici très rapidement que je suis ici pour représenter le syndicat des étudiants de l'Université d'Alberta, mais je représente également notre groupe de lobby national. Vous avez peut-être déjà reçu le document de l'association du groupe de lobby. Donc, c'est aussi pour les représenter que je suis ici. Nous allons maintenant passer à Alexandra. Merci. Merci d'avoir donné à la communauté des musées la possibilité de s'exprimer ici. C'est vraiment formidable de pouvoir exprimer notre opinion et aussi peut-être quelques solutions d'ailleurs. Les musées fonctionnent dans l'intérêt du public et au nom de la société. Et nous sommes donc obligés de servir l'intérêt du public. Nous faisons ça en acquérant, en partageant le savoir. Ce sont des fonds de fiducie publique. Ça différencie beaucoup notre industrie des autres industries privées et publiques. C'est très important pour un musée d'avoir une collection. Il faut pouvoir donner les ressources à tous les utilisateurs. Et c'est aussi une responsabilité d'éducation publique. Le public est vraiment le propriétaire de ces œuvres. Ils ont le droit de voir tout ça, que ce soit en ligne ou sur place. Les musées utilisent des œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur pour la recherche, la promotion, la publication, etc. Donc, les musées utilisent des milliers d'articles. Je suis désolée de vous interrompre, mais si vous pouviez ralentir un petit peu, c'est pour la traduction. Merci. Les musées utilisent des œuvres qui sont protégées pour la recherche, la promotion et l'exposition. Les musées utilisent des milliers d'articles et des documents d'archives. Bien sûr, il y a une question de volume à ce moment-là. Ça peut devenir très difficile d'avoir les fonds nécessaires pour payer pour tous les droits d'auteur lorsque vous essayez de développer une base de données qui est numérique. Les musées, ça représente un accès public pour le développement communautaire et l'éducation. Ça n'est pas un intérêt commercial ou autre. À cause de ça, il n'y a pas beaucoup de ressources qui sont allouées à ce genre d'organisation qui n'est pas considérée comme étant à but lucratif. Donc, dans notre association, il y a eu plusieurs questions qui ont été soulevées en ce qui concerne la protection du droit d'auteur et je vais vous les présenter. La première chose, c'est l'accès aux collections des musées en ligne. Les chercheurs peuvent accéder à ces collections en ligne rapidement. Il y a toutes sortes de collections qui sont numérisées. il y a des images et des œuvres écrites et ça peut être un grand bénéfice. Les musées devraient pouvoir utiliser ces images sans avoir de sanctions contre eux. Si un musée ne peut pas ouvrir, ne pas trouver quelqu'un qui va fournir un droit d'auteur, on ne devrait pas les empêcher d'utiliser cette image ou cette œuvre. La définition d'une œuvre artistique dans la loi ne couvre pas toutes les œuvres qui existent à l'heure actuelle. On parle ici des nouveaux médias, des installations, etc. Il faut définir c'est quoi les copies contrôle et les copies maîtres. Ça, c'est quelque chose à régler. Il faut aussi définir les droits moraux et l'accès et l'appropriation d'une image visuelle lorsqu'une image est utilisée pour un nouvel objectif, une nouvelle œuvre. Alors, certaines des solutions que nous avons, en tout cas des solutions que nous voulons suggérer, par exemple, développement d'une liste d'artistes visuels, ça serait par exemple l'équivalent d'une liste de surveillance. C'est une liste qui a déjà été établie aux États-Unis et à l'Université du Texas. Vous pouvez consulter la liste en ligne et vous pouvez voir qui c'est qui détient le droit d'auteur. Encore une fois, il faut redéfinir les différentes œuvres artistiques. Il faut inclure les nouveaux médias et les installations et toutes les autres formes d'expression. Nous voulons préserver les exceptions pour les musées, les librairies, les bibliothèques. En ce qui concerne les études privées, il faut clarifier la distinction entre la propriété de l'image et la propriété du droit d'auteur. Il faut permettre aux nouvelles technologies de contrôler l'accès et il faut développer des exigences de bonne diligence afin de permettre aux organismes qui n'ont pas beaucoup de ressources de quand même faire leur travail. Merci beaucoup. Nous allons passer finalement à Rick Leach. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de participer aujourd'hui. Notre différentes associations de bibliothèques du Canada représentent 57 000 employés qui travaillent dans les différentes bibliothèques du Canada. Leur objectif est bien sûr d'assurer que l'intérêt du public est satisfait avec toutes les technologies que nous avons. Donc le droit d'auteur, c'est quelque chose de central pour nous. Ça affecte la manière dont on peut autoriser les gens à le consulter, le prix de consultation. Bien sûr, le droit doit être protégé. Les créateurs ont le droit d'être rémunérés, d'être compensés pour leur travail. Mais une grande protection existe déjà dans les droits fondamentaux qui existent pour le droit d'auteur. Ça représente la vie de l'auteur plus 50 ans. Bien sûr, ça a été compliqué par les répercussions de la technologie actuelle. Maintenant, tout peut être copié et transmis très facilement. Le gouvernement du Canada doit cependant tenir compte d'un équilibre au niveau de l'équité entre les droits des utilisateurs et le droit de dissémination des propriétés culturelles. Il y a aussi le droit des auteurs, le droit du créateur qui a le droit d'être compensé. Je suis d'accord avec la Cour suprême du Canada dans la décision que cet équilibre, c'est important de reconnaître les droits du créateur, mais aussi le droit des utilisateurs. Beaucoup de questions qui sont importantes pour les bibliothèques, on en a déjà discuté. Nous avons bien sûr cette question d'utilisation équitable. L'exception qui nous concerne le plus, c'est l'exception d'utilisation équitable pour la recherche. On considère ça comme étant un droit d'utilisateur. Nous avons 6 facteurs qu'il faut considérer, selon nous, dans la définition. Et ça nous permettrait d'évaluer si l'utilisation est équitable. Donc, nous suggérons que ces éléments soient davantage développés dans la nouvelle loi. On pourrait incorporer ces facteurs dans la loi. Et aussi, on ne veut pas restreindre l'utilisation, comme ça a été fait aux États-Unis à certains endroits. Nous croyons également que le droit ne devrait pas être soumis à l'application de mesures de protection inviolables, avec des contrats d'utilisation restreints, comme ça a été fait dans le projet de loi C-61, en tout cas dans la loi avant que celle-ci. Alors, ce qu'on appelle les mesures de contournement des dispositifs de verrouillage numérique, on appelle ça des systèmes de verrouillage, mais en 2006-2007, les universités canadiennes ont dépensé presque 50% de leur budget de ressources pour imposer des verrous. Alors, ces verrous ont vraiment des conséquences négatives. Nous voulons que les gens soient autorisés à contourner ces dispositifs dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle lorsque c'est considéré comme étant équitable. Nous encourageons le gouvernement à ne pas criminaliser les Canadiens, comme ça a été fait dans le projet de loi C-61. Nous voulons que ce soit autorisé de contourner ces dispositifs pour des objectifs raisonnables, c'est-à-dire des utilisations qui sont couvertes par l'utilisation équitable, lorsque, par exemple, le droit d'auteur a expiré ou pour de la recherche. Je crois qu'il est important de reconnaître que les personnes qui sont considérées comme ayant des déficiences ont beaucoup de difficultés à obtenir certains types de matériel dans un format qui est adéquat pour leurs besoins. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été discuté. Il y a eu une modification importante à la loi américaine et qui concerne l'échange entre le Canada et les États-Unis. Et ça, c'est interdit. Je ne peux pas vous donner tous les détails. Mais les gens qui ont affaire à ça disent que c'est un problème qui n'est pas seulement national. Il faut absolument que le gouvernement du Canada commence à y penser également. Les publications du gouvernement, ça considéré comme étant la propriété des Canadiens et donc ça devrait être facilement accessible. La dernière chose que je voudrais discuter aujourd'hui, c'est la responsabilité des fournisseurs de services Internet. Notre position est conforme à ce qui a été adopté par les tribunaux canadiens. Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec l'attitude américaine à ce niveau. Nous sommes beaucoup plus en faveur d'un système d'avis-avis au lieu d'un système d'avis-retrait comme aux États-Unis. Je crois qu'aux États-Unis, en fait, ce système, ça a été un véritable échec. Il y a beaucoup d'organismes qui, comme des écoles, des bibliothèques, qui pourraient être considérés comme des fournisseurs de services et donc qui sont concernés par cette question. Les systèmes d'avis et retrait sont certainement un préjudice pour les utilisateurs et ça cause beaucoup de difficultés au niveau des tribunaux. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation à ce niveau. Sure.
Passons maintenant aux discussions. Quelques commentaires sur la suggestion de Jane Emeda, qu'elle aimerait m'entendre sur mon orientation, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est ici pour vous entendre, vous, pour que vous nous disiez où nous, on devrait aller avant que nous ne prenions des décisions. Mais avant de parler de mes idées ou de sur l'orientation à prendre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des commentaires sur ce que les gens ont dit autour de la table dans ces quelques dernières minutes? On va faire ce que Merna vient de faire. Si vous pouvez lever le doigt, là, et puis pour manifester votre intention de prendre la parole, on va faire une liste de gens qui veulent intervenir. Chacun aura la chance, espérons-nous, de s'exprimer. Bien. Circadia Alexandra m'intéresse quand elle a parlé des ressources financières nécessaires pour se protéger, là. Le mot « clear copyright », droit d'auteur clair, là, qu'elle a utilisé. Est-ce qu'on peut pas mettre ça à la lumière de l'agence de licence collective? Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les musées, mais en raison de l'accès au droit d'auteur, on n'a plus besoin de garder ce document-là à côté de chaque photocopieuse. Là. Est-ce qu'il y a des discussions entre les deux là, qui porteraient sur cette question-là? Pas que je sache. Si je comprends bien, surtout dans les musées qui traitent de collections artistiques, là. Non. Je pense que c'est une excellente idée, Myrna, et que le droit d'auteur de l'accès devrait effectivement s'intéresser à ça, et je porterai ça à leur attention. Et j'en profite, puisque j'ai le micro, pour poser une question. J'ai la plus grande sympathie pour tous les arguments exprimés autour de la table, mais une chose que je ne comprends pas très bien, comme éditrice, quand on veut utiliser du matériel qui est dans un musée, ben il faut payer. Mais vous n'en êtes pas propriétaire au départ. Alors, je ne vous attaque pas là directement, mais je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce que nous, on devrait donner nos choses gratuitement et qu'on devrait payer les musées pour des choses dont les musées sont de toute façon pas propriétaires. Justement, ça touche un peu ce que j'ai dit qu'en matière de clarification de la propriété de l'image et du droit d'auteur, là, Donc, ce n'est pas toujours très bien compris. Pour les musées, il faut mieux comprendre qui est propriétaire de quoi et comment ça peut être utilisé à des fins de recherche, par exemple, ou pour donner à une publication, par exemple, encore. Il y a une question de génération de revenus pour nous-mêmes. Et au cours des 10 dernières années, ça a été une façon de nous créer des revenus. Mais il faut effectivement mieux définir ces termes-là, j'en conviens. Alors, Shana avait levé la main en se tournant. Shana, voulait dire quelque chose. Shana. Je voulais dire que je crois qu'il y a des utilisations légitimes de l'utilisation équitable, mais casser les TPM, ça a du sens. La plupart d'entre nous, on se prépare à ça et puis que ça soit rendu disponible. On n'a pas besoin de verrouiller tout le monde. Là. Peut-être moins vrai pour les bibliothèques, mais plus pour la violation illégitime qui vont avoir lieu de plus en plus. Et on voit ça dans le cas de Google, par exemple. Lorsqu'on voit ces violations, c'est très clair. Lorsque le TPM est violé, ça, c'est vraiment l'élément critique, moins à l'intérieur de nos bibliothèques. Et on veut tendre le droit d'auteur par des clauses telles que là. Mais vous avez parlé des collectifs, là. On essaie de créer une loi maintenant, dans cette année-ci. Là. Et c'est sûr qu'où on sera dans 5 ans, ça va être différent. L'émergence de collectifs là, et de ce qu'on fait pour essayer d'assurer l'utilisation équitable et d'assurer l'utilisation équitable pour les gens handicapés, avec des déficiences, là, ben, tout ça. Mais l'économie de ce monde-là va évoluer au cours des prochaines années. Nous allons créer des mécanismes par les micro-opérations et on a déjà fait pas mal de chemin avec le droit d'auteur de l'accès. Là. On a des micro-opérations de petits téléchargements pour des petites choses. Là. Enfin, il y a des choses nouvelles là, qui voient le jour constamment. Et l'accès là même, les permissions sont là de plus en plus au fur et à mesure qu'on répond à cette économie-là et aux exigences de cette économie. Merci. J'aimerais répondre à une ou deux choses mentionnées par mes préopinants. D'abord, pour reprendre la métaphore agricole utilisée plus tôt, tout le monde dans la salle ici, pour ce qui est du droit d'auteur, en tout cas, et sans doute dans leur vie de tous les jours, sont des gens qui sont de premier calibre dans leur domaine. Mais il est important de comprendre, donc à la lumière des commentaires de Jane, qui a dit quelque chose de très important quand elle a parlé des gens dans la rue. Les gens autour de la table ici, c'est pas les gens ordinaires, les gens dans la rue, là, les gens de tous les jours, là, le grand public qui, lui, comprend pas le droit d'auteur et pas très sûr quand ils ont violé ou contrefait quelque chose ou non. Plutôt, ils ont besoin d'être sensibilisés à certaines de ces questions-là. Ils sont pas là pour acculer la fraude d'un artiste de rock, là, ou Exxon. Bon. C'est ça auquel on est confronté dans ces questions de droit d'auteur. Pour nous qui avons à faire ça de tous les jours, sur les bibliothèques, les commissions scolaires, ou peu importe, nous comprenons les grandes questions. Il y a des choses qu'on comprend, peut-être pas tout à fait, mais en général, on comprend. Donc, on comprend ce qui est régulier, puis ce qui ne l'est pas, donc ce qui est irrégulier. Le droit d'auteur, moi, qui ai grandi dans une petite ville de Saskatchewan, bien, pour moi, c'est un peu comme être dans le milieu de la rue, à 40 sous zéro, il vente. Votre auto de l'autre côté de la rue. Bon, il faut vous traverser la rue ailleurs qu'à un coin de rue. Bon, mais vous le faites, même si c'est pas tout à fait légal, parce que, ça presse. Alors, les violations, c'est un peu dans ce sens-là. Là. La difficulté pour le gouvernement, c'est pas seulement d'avoir ces équilibres dont tout le monde parle aujourd'hui, là, mais de trouver une façon d'expliquer de façon compréhensible à l'homme de la rue, la femme de la rue, donc le grand public, quand on crée une industrie où on essaie de se protéger de, justement, de du citoyen ordinaire qui ne veut pas nécessairement violer le droit d'auteur, mais qui comprend mal ce qui est protégé par le droit d'auteur. Donc, nous vivons dans un monde complexe, interconnecté, j'insiste pas. Mon collègue a parlé de l'environnement Google et du règlement de cette affaire en justice-là. Bon, je ne veux pas m'attaquer au gouvernement fédéral indûment, mais il y a eu des groupes qui font du lobbying auprès du gouvernement fédéral depuis longtemps, d'ailleurs, pour avoir un Google fait au Canada qui, lui, serait plus sensible à ces questions, qui causent des problèmes et qui le font depuis un bon moment, et de s'inspirer de ce qu'en fait l'Union européenne pour trouver des façons de faire une numérotisation de masse, là, d'une façon qui soit conforme à notre culture et aux paramètres qui nous paraissent importants. Deux questions assez différentes, mais je voulais quand même bien dire, Monsieur le Président, qu'il y a eu bien des tentatives de trouver les ressources pour ce faire, mais on sera un peu surpris de voir qu'aujourd'hui, il se fait pas mal de choses, numérisation de masse, là, qui tiennent compte de ces valeurs dont, qu'on considère comme précieuses au Canada, mais qui sont faites par des fondations américaines. C'est ironique. Hein? Nous sommes ici à l'Université de l'Alberta. On fait la numérisation de plus de 20 millions de pages de matériel canadien pas protégé par le droit d'auteur. Et c'est payé, c'est subventionné par une compagnie ou une fondation américaine, même si on a essayé depuis longtemps d'obtenir des ressources canadiennes. Enfin, il y a donc un chevauchement de plusieurs sujets, là, qui sont tous importants. Shane. Quelque chose qui a été dit là et dont je n'ai pas parlé, peut-être. Vous avez une loi, donc, qui soit aveugle en matière de plateforme. Donc, il y a le consommateur qui essaie de faire une opération. Or, on veut s'assurer qu'on couvre toutes les plateformes. La meilleure chose à faire, c'est de tenir compte des plateformes et trouver une façon où l'opération peut avoir lieu. Quelqu'un a dit récemment, et c'était très intéressant, qu'il faut arrêter d'essayer de monétariser la technologie, de comprendre le comportement des gens qui utilisent cette technologie-là. Or, c'est de ça qu'on parle ici aujourd'hui, je pense. Rick? Bien d'accord. Deux choses, pendant. Dans le cadre du régime actuel de droit d'auteur, il y a des monopoles sur lesquels peuvent compter les créateurs, les écrivains, ne l'oublions pas. Et les gens qui exploitent les documents, là, bon, ben dans la nouvelle loi, ces gens-là pourraient être punis, là. Jusqu'où voulons-nous aller dans ce sens-là pour assurer cette protection? Il n'y a pas de solution évidente, j'en conviens. Les plateformes, les formats, donc tout ça, c'est difficile à appliquer là, au cas par cas, de façon ponctuelle. Et Jane, je suis d'accord pour dire que si on peut ajouter donc un niveau là, qui nous permet de contrôler ces opérations-là, ça serait utile. Mais pour l'instant, j'aurais pas de suggestion. Mais je répondrai à quelque chose que vous avez dit. Il n'y a pas de propriété dans un livre ou un DVD. Lorsque j'achète un livre ou un DVD, j'acquiers des droits à ça, le droit de le lire, de le mettre dans la baignoire, dans l'eau de la baignoire, de le prêter à mon copain. devrait, avec le cas d'un DVD, avoir le droit donc de le mettre sous un autre format qui correspond à ce dont j'ai besoin, moi, ou ce qui me plaît, l'utilisation que je veux en faire, certainement. Et donc, je dirais moi aussi que le projet de loi C-51 n'a pas assuré cet équilibre-là. Je reviendrai à Jane pour ça, mais je veux dire que c'est quelque chose que j'ai entendu, moi, comme député de bien des gens, et qui a trait au verrouillage numérique et cette frustration que quelqu'un achète un produit et qu'ils ont une utilisation légitime et qu'ils ne veulent pas nécessairement l'utiliser dans le format dans lequel ils l'achètent.
Est-ce qu'il devrait y avoir une interdiction de transformation, c'est-à-dire de pouvoir transformer ça dans un format qui peut être utilisé pour les objectifs principaux de l'utilisateur? Je crois que c'est là qu'il y a une division intéressante au niveau de... c'est cette question de la propriété, de la propriété. Vous êtes propriétaire du format physique, du DVD, mais vous n'êtes pas propriétaire du matériel qui est dessus. Je ne suis pas propriétaire de ce que Myrna a écrit dans ses livres, même si c'est sur mon étagère dans les livres que j'ai achetés. J'ai un droit de location, c'est-à-dire d'avoir son contenu chez moi. Je peux l'utiliser comme je veux. Mais je n'ai pas le droit de le photocopier et de commencer à donner des copies à mon groupe de lecture, par exemple. Et donc, c'est ça dont on parle. C'est cet équilibre qu'il faut trouver. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de permettre aux gens d'utiliser ça de la manière qui est autorisée, finalement. Toutes ces utilisations en classe et autres, ça devrait être utilisé, oui, mais... Il y a quand même une ligne très fine. Vous êtes propriétaire, oui. Vous êtes propriétaire du livre, oui, mais pas du contenu. Et c'est très difficile d'accepter ça. Je crois que c'est là quelque chose qu'il faut qu'on fasse comprendre aux gens, que ce soit les auteurs, les créateurs, les peintres, les réalisateurs, même les artistes qui sont sur scène. Eh bien, tout ça, toutes ces prestations sont couvertes par le droit d'auteur. Oui, vous pouvez utiliser le contenu, mais vous ne pouvez pas être propriétaire. C'est un droit de location. Je ne sais même pas quel est le nom légal ou le mot légal qu'on devrait utiliser, mais vous n'êtes pas propriétaire, en fin de compte. C'est ça qui est important de comprendre. Shane, c'est intéressant de voir où on s'en va avec ça. J'apprécie tout à fait ce que vous dites, Rick. Vous avez mentionné que nous répondons à la demande du marché. On n'est pas vraiment en train d'analyser la technologie. On essaie de créer... une loi qui va répondre bien au-delà de la technologie qu'on a à l'heure actuelle. Nous avons discuté parmi nous. Et nous savons que nous avons amené des experts de du monde entier. Nous avons des ateliers et nous essayons de voir un peu les différents modèles qui vont se présenter dans les différents pays. Comme vous le faites dans l'industrie cinématographique ou autre, on voit qu'il y a vraiment une résistance par rapport à ces mécanismes de verrouillage électronique. Nous savons qu'il faut absolument qu'on participe à cette discussion. Il faut dire, OK, d'accord, vous pouvez faire 5 copies et vous pouvez les mettre sur 5 dispositifs différents que vous avez. Ou alors, si vous perdez tous ces dispositifs, votre achat sur iTunes a été enregistré, donc vous pouvez de nouveau le retélécharger. On essaie de voir de quelle manière tous ces modèles peuvent coexister. Il nous faut absolument répondre. Il nous faut satisfaire aux besoins de nos acheteurs. Je veux dire, il y a des gens qui disent « Non, moi, si je vois ce genre de verrouillage électronique, je refuse d'acheter le produit. » Donc, il faut absolument qu'on tienne compte de tout ça. Je crois qu'on est en train de rattraper un peu ces nouvelles technologies, mais c'est nouveau. Et toutes ces sociétés de gestion, la manière dont on gère ces microtransactions, la manière dont on enregistre les œuvres sans savoir exactement ce que les gens lisent, il faut qu'on fasse très attention à la manière dont on enregistre. Les gens disent « Non, non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas que tout le monde sache ce que je lis, ce que je regarde. » Je veux dire, tout ce qui se trouve dans votre compte Gmail, ça va être lu. Les gens vont le savoir. Je veux dire, essentiellement, ils vous font parvenir des publicités qui correspondent à ce que vous lisez. Alors, il y a des limitations, mais il y a aussi beaucoup de résistance de la part des gens. Alors, notre question, c'est quel genre de modèle est-ce qu'on va adopter? On dit, OK, vous allez... si on va dire aux gens, OK, d'accord, vous avez le droit de faire 5 copies pour vos 5 dispositifs différents. Et si vous perdez ces 5 copies, on vous donnera de nouveau accès parce que vous avez acheté le droit. Mais on n'est pas encore là, on n'a pas rattrapé ça. Et c'est un modèle de distribution différent. Mais pour essayer de démanteler ce qui existe à l'heure actuelle pour faciliter d'autres usages, il y a toujours des gens qui viennent s'intercaler et qui commencent à exploiter cette situation à leur propre profit. Je veux simplement poser la question ici, mais qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un vous disait, « OK, j'ai acheté un DVD, un film, par exemple, et je veux pouvoir le regarder sur mon iPod ou bien sur n'importe quel autre dispositif comme ça. » Donc, on a besoin de contourner le dispositif verrouillage parce qu'il faut pouvoir le transférer, bien sûr, parce que ça n'est pas conçu comme ça. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là? Et vous, si c'est une personne, vous disiez que ce n'est pas raisonnable de rendre ça légal. Personnellement, et je ne suis pas certaine que ce soit la position de l'association, moi, je dirais, personnellement, vous devriez avoir le droit de regarder ce film sous n'importe quel format, de la même manière que vous pouvez prendre un livre, vous pouvez le lire dans votre baignoire, si vous voulez. Si vous voulez voir ce film que vous avez acheté sur votre iPod ou autre, vous devriez avoir le droit. Par contre, si vous voulez le montrer à une classe pleine d'enfants, ou bien si vous voulez le visionner avec l'ensemble de vos voisins, moi, j'ai un problème. Mais je n'ai pas de problème avec la manière dont vous, personnellement, vous voulez regarder ce film. C'est votre propriété, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ça, c'est correct. Mais si vous commencez à partager ça avec tout le monde, c'est là que je commence à avoir un problème. Essentiellement, vous avez acheté une copie, vous avez mis un droit de licence, et c'est un droit de licence que vous avez acquis, un droit d'utilisation. Donc, si vous voulez le regarder sur votre ordinateur, sur votre iPod, sur votre télévision, pourquoi est-ce que moi, ça devrait m'inquiéter de savoir dans quelle salle, dans quelle pièce de la maison vous allez regarder? Mais à quel point est-ce que... À quel point on peut dire, OK, j'ai acheté un DVD, j'ai donc acquis le droit d'utiliser ce contenu de la manière que je veux? Dans votre propre maison, oui, je suis d'accord. Bon, OK, je devrais dire sur vos propres dispositifs, que ce soit un iPod ou autre. Mais pour votre utilisation personnelle, et si vous lisez d'ailleurs ce qui est écrit sur les boîtes en général, c'est exactement ça que ça veut dire. Rick, vous aviez levé votre doigt, mais à moitié seulement. Et ensuite, je crois qu'on a Jane aussi qui est sur la liste. Allez-y. La seule chose que je voudrais dire ici, j'ai un scénario ici théorique. Tout d'abord, je vais le lire sur le dispositif que j'ai. Maintenant, j'ai cette image digitale qui est autorisée, mais en tout cas, je l'ai achetée. Et ensuite, il y a un nouveau média qui vient de sortir, qui est encore super meilleur, qui s'appelle un XPZ au lieu d'un DVD. Si j'ai la technologie, pourquoi est-ce que je ne devrais pas avoir le droit d'utiliser cette image de cette nouvelle manière? Je devrais avoir le droit de faire ça, non? Je n'ai pas de problème avec ça non plus. Mais je crois qu'il nous faut penser à d'autres choses que cette question de contourner les systèmes de verrouillage. Je crois qu'il ne faut pas ici essayer de mettre des mots dans la bouche de Shane. Lorsque vous achetez un film ou une autre œuvre quelconque, vous devriez pouvoir y accéder pour votre utilisation personnelle sous le format qui vous intéresse, sans avoir besoin de contourner le dispositif de verrouillage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. On est en train d'essayer de figurer ça. Comme dit Shane, on a été inondé de renseignements sur toutes les manières dont la technologie change notre monde. Je dois dire au moins, je lis 50 pages par jour sur ces questions-là. Et personne n'a réussi à résoudre ce problème. Nous ne sommes pas en train de dire que nous ne voulons pas être coopératifs. Nous voulons simplement nous assurer que les gens ont accès à leur matériel. Je veux dire, si je n'ai pas de lecteur, moi, je n'ai plus d'entreprise. Donc, je veux absolument m'assurer que le lecteur reçoit ce dont il a besoin. Mais je veux également m'assurer que la propriété en question a une bonne protection, de manière à ce que les auteurs puissent être payés et de manière à ce que moi, je puisse continuer à éditer des livres. Mais ça ne veut pas dire contourner les dispositifs. Ça veut dire autre chose. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas la réponse, mais ça vient. On a besoin de temps, c'est tout. Ensuite, Shane, Myrna et Ernie. Je crois que la solution est sur le point d'arriver. On ne parle pas seulement de ce qu'on vient de dire ici. À l'heure actuelle, la majorité des livres électroniques que je lis sont sur mon téléphone ou sur mon iPod. Et pourtant, je les ai sur mon ordinateur maintenant. Mais si je les perds, je peux les retélécharger. Pourquoi? Parce que mon achat original a été enregistré. Ils peuvent vérifier qui je suis, donc j'ai le droit de retélécharger ça. Il y a des moyens de créer des systèmes de verrouillage électronique qui permettent des copies multiples, qui permettent une inscription de l'auteur. Et nous avons cette nouvelle technologie. Ça existe. Ça existe. On est juste en train de rattraper ça. Mais la question qui se pose, c'est combien de copies on devrait permettre. Nous avons créé des sociétés de gestion qui sont en train justement de négocier pour avoir les meilleurs thèmes avec ces différents groupes. Ça permet une utilisation multiple. Nous sommes vraiment, nous avançons à l'aveuglette ici. Nous avons fait beaucoup de recherches. Nous avons réussi à trouver des solutions dans certains secteurs. Nous avons rencontré des Australiens. Nous avons commencé avec des négociations. Et les nouvelles technologies, elles arrivent très, très rapidement. Et ce sont des technologies qui existent. Mais on se dit, OK, qu'est-ce qu'on donne? 10%, 6% par inscription? Je veux dire, si c'est, on donne non, un certain nombre de copies, c'est de l'argent que nous, on ne recevra pas en retour. Ce sont des solutions qui peuvent répondre aux besoins du Canada. Ça existe. Il faut simplement les trouver. Toutes ces solutions d'entreposage électronique existent. Ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des solutions qu'on pourrait mettre par-dessus qui permettraient une utilisation flexible. Et je crois que ce qu'on aimerait, ça ne serait pas entreposé quelque part dans une coopération. On voudrait qu'on fasse ça de manière collaborative afin que tous ces entrepôts de ces biens électroniques soient là pour toujours. Et on pourrait continuer à les mettre à jour, à les moderniser. Ça permettrait d'avoir des formats plus complexes au fur et à mesure que les nouvelles technologies émergent. Micro, s'il vous plaît. Votre nom? Oh, Chris. Ce que Jane a dit, je crois qu'on devrait parler du comportement des gens sur l'Internet, pas seulement sur la manière dont on peut en retirer de l'argent. Alors, je vais parler plus spécifiquement des étudiants ici. J'ai cité un passage de la Commission européenne qui parlait du comportement de la génération européenne. Donc, un tiers ne veulent absolument pas payer quoi que ce soit. D'après vous, est-ce que c'est un jugement qui semble raisonnable? S'il y a une telle résistance, je veux dire, 30%, c'est énorme. Nous savons déjà que nos journaux ont de grosses difficultés à l'heure actuelle parce que personne ne veut payer pour lire leurs journaux. Je veux dire, moi, je suis une de ces personnes. Les gens veulent... Est-ce qu'on pense que payer 5 $ par mois, ça va même pouvoir offrir des ressources à tous ces journalistes, les ressources photographiques, etc.? Alors, d'après vous, est-ce que c'est représentatif de votre génération qui ne veut payer pour rien? Je veux dire, cette question d'Internet, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas que je vais essayer de parler pour toute une génération d'étudiants ici. Ça n'est pas possible. Et surtout lorsqu'on parle de leurs habitudes de consommation en matière de divertissement. Je vais peut-être ici sortir un petit peu de mon rôle de représentant. Je crois qu'à l'évidence, les gens ne payent pas pour le contenu autant qu'ils le faisaient auparavant. Ce qui m'inquiète le plus, en particulier en ce qui concerne cette législation. Il y a des gens qui peuvent parler, mais pendant des heures et des heures, de tous les MP3 et les DVD, etc. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. De mon point de vue, la capacité de collaborer, d'être novateur dans une bibliothèque, dans une classe, la disponibilité. Pendant des années, les étudiants, si les étudiants n'étaient pas quelqu'un qui pouvait apprendre, si vous êtes un étudiant qui a besoin de voir les mots pour pouvoir apprendre et que vous avez un enseignant qui ne met rien au tableau ou bien sur une présentation PowerPoint, eh bien, vous n'allez pas pouvoir retirer quoi que ce soit de cette lecture qu'un étudiant qui, par exemple, a une facilité auditive. Nous sommes en train d'entrer dans une période très excitante où l'enseignement et l'apprentissage peuvent combiner tous ces styles d'apprentissage. En même temps, ça permet aux étudiants d'exploiter au mieux la manière dont ils peuvent accéder au matériel selon leurs propres préférences, avec la technologie qui existe. Et surtout avec la technologie qu'ils peuvent se permettre de payer. Ceci étant dit, nous aimerions une protection du droit d'auteur qui tienne en compte la facilité que les gens devraient avoir pour apprendre, pour enseigner, pour faire de la recherche. Nous voulons pouvoir encourager la prochaine génération de découvertes, de contenu et aussi de production artistique. Et c'est exactement ce que représentent les étudiants dans nos différents établissements. Je crois que les étudiants comprennent que leur établissement paye pour une grande partie de la protection des droits d'auteur. Ça fait 4 ans que je ne suis plus étudiant, alors je ne sais plus si c'est vraiment réel, mais je ne sais pas si ça existe encore, mais si vous allez à une photocopie à une photocopieuse à l'Université d'Alberta, vous allez voir, il y a un petit avis sur le droit d'auteur. C'est toujours affiché à côté. Et je crois que les étudiants sont tout à fait au courant de cette question. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est très difficile de ne pas tenir compte de ça. C'est devant vos yeux, c'est à côté de toutes les photocopieuses. Les étudiants eux-mêmes sont tout à fait au courant de ces questions de protection des droits d'auteur. Ils savent qu'ils vont devenir eux-mêmes des producteurs de contenu. Je crois qu'ils ont tout à fait... ils veulent respecter ça, mais ils ont besoin d'être éduqués. Il faut qu'ils en sachent plus sur la question. Et il faut aussi que les droits d'utilisation soient raisonnables pour qu'ils puissent se permettre de les payer. Ensuite, nous allons avoir Ernie, Rick et Shane. Je veux simplement faire un peu de suivi sur des commentaires qui ont été dits. Certaines choses que j'allais dire, Chris vient de le dire, mais je voulais ici faire un commentaire sur ce que Myrna a dit au niveau de ses sondages et de ses études. Et j'en ai vu beaucoup. Il y a cette perception que je crois que elle donne une bonne impression de la situation. Ça donne l'impression d'une génération à un certain temps. Je crois que tout le monde dans cette pièce est au même stade. Et je parie que tout le monde dans cette salle a fait probablement les mêmes erreurs à un certain moment. C'était peut-être pas une question de droit d'auteur, mais ce sont des erreurs et tout le monde arrive à comprendre. Et je crois que les étudiants à l'heure actuelle vont comprendre tout ça. Je ne pense pas qu'on a besoin d'avoir peur que les adultes du futur vont être tellement différents. Ce sont des gens. Je crois qu'il faut qu'on fasse du meilleur travail, tous ensemble ici, de traiter cette question des droits d'auteur. Quelle que soit notre perspective, il faut qu'on fasse un effort pour éduquer tout le monde. Parce que dès qu'on comprendra ce sur quoi on veut éduquer les gens, et je crois que c'est ce que la loi va nous dire, je crois que là, on sera en mesure de faire notre travail. Et je voulais simplement dire ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous avons une bonne discussion sur l'utilisation personnelle et la question de l'utilisation personnelle en général. De l'autre côté du spectre, dont nous n'avons pas encore parlé, c'est cette question flagrante et absolument horrible de la violation du droit d'auteur. Et ça se produit à l'heure actuelle beaucoup. Au milieu de ça, je dois porter mon chapeau d'université ici, il y a ce besoin d'utilisation équitable pour tout ce qui concerne l'éducation. Tout ce qui concerne les questions d'éducation, ça fait partie des questions d'enseignement. Il faut qu'on puisse profiter de ces opportunités d'enseignement. Il faut qu'on puisse utiliser des documents, de l'information qui est protégée par droit d'auteur, quel que soit son format. Il doit y avoir au milieu une bonne compréhension de ce point dans la loi. Il y a des objectifs qui sont éducatifs, ça doit être pris en compte. Parlons par exemple des bibliothèques. Mais il y a également toutes sortes de questions qui sont comprises dans la question de l'utilisation équitable. Je crois que lorsqu'on a une liste explicite de ces possibilités, c'est un problème parce que ça rend les choses encore plus confuses. Si c'est juste le début d'une liste, comment ça clarifier? Si c'est une liste qui est construite de manière adéquate, on y pense beaucoup. Alors, c'est une liste qui va pouvoir durer au travers du temps. Les mêmes choses qui étaient correctes il y a 5 ans, ne sont peut-être pas les mêmes aujourd'hui. Il faut permettre à la loi d'être actuelle, de représenter la situation actuelle, au lieu d'avoir ces espèces de tablettes en marbre qui sont gravées et qui représentent seulement une période. Vous vous rappelez de la loi originale qui parlait de tous ces dispositifs mécaniques? Je veux dire, il faut qu'on puisse commencer à progresser. Oui, si on utilise les mots tels que, eh bien, ça permet à la loi d'évoluer. On n'a pas besoin de recommencer tout ce cirque chaque année, année après année, parce que la technologie évolue. Je vais simplement suggérer ici.
Bon, une suggestion. Donc, l'horloge indique qu'il est 3 heures. On devait finir à 3 heures, mais on peut peut-être poursuivre une autre 10 minutes. Alors, passons à Rick et ensuite à Shane. Deux choses. Ce que disait Ernie, ce qui est équitable est d'avoir une clause telle que. Il ne faut pas oublier que une loi bien rédigée va vous donner des exemples et le tribunal, en utilisant les règles d'interprétation, va donc interpréter en conséquence. Et les tribunaux ont fait du bon travail d'interprétation. Ça n'ouvre pas la boîte de Pandore que semblent redouter plusieurs du côté des utilisateurs. Je suis d'accord avec Ernie. Ça donne plus de flexibilité pour ce qui est de l'utilisation équitable. Deuxième point, relativement à ce que Linda a dit, je pensais qu'on avait bien progressé sur la question des droits. Est-ce que je peux faire de ce contenu numérique jusqu'à ce que Linda dise, mais pas pour violer donc ou pour contourner le verrouillage électronique? Parce que vous pouvez vous fier au marché, mais ça n'a aucun sens pour moi que j'ai le droit de faire ça, à moins qu'un éditeur dise que je n'ai pas le droit de faire ça ou que j'ai un contrat qui dit que je n'ai pas le droit. Le marché va peut-être décider, j'ai payé et je m'attends d'avoir un produit, je m'attends de pouvoir l'utiliser dans les limites raisonnables. Et ça touche aussi d'autres exceptions telles que les opérations équitables. Enfin, le droit d'auteur ne s'applique plus. Donc, c'est une solution trop inflexible que dire que donc un verrouillage électronique qui ne peut pas être contourné, là, qui devrait s'appliquer à. Shane, vous avez dit que ce n'est pas nécessairement ce que vous cherchez dans votre situation. À votre tour, Shane. Je ne cherchais pas à représenter tous les éditeurs. Je comprends qu'il y a eu une évolution, que les verrouillages électroniques peuvent être contournés pour toutes sortes de raisons tout à fait légitimes. Mais je crois aussi que bien des gens vont réagir dans le marché en créant des licences de sites micro. On voit déjà ça, d'ailleurs. Mais j'aimerais maintenant revenir à une question clé soulevée par Chris. Et vous le mentionnez maintenant, on le comprend, parce que le règlement juridique est à 14 jours. Il faut décider si oui ou non. Le ministère de la Justice doit contester d'ici le 18 septembre. Or, c'est tout à fait essentiel dans le concept de propriété intellectuelle en ce moment, parce que ça a donné... ça dit que les bibliothèques aux États-Unis ont un avantage. Ça va créer des pressions très importantes. Les gens vont dire on n'a plus la capacité qu'ils ont aux États-Unis parce qu'ils ont accès à cette montagne de travail. Disons que Google, par exemple, a 7 millions de titres disponibles en ce moment. Ça crée un avantage. Beaucoup de ça, c'est déjà au projet Gutenberg. Les œuvres qui ne sont pas couvertes par le droit d'auteur, ça réémerge. Puis ensuite, il y a la confusion dans le cas des travaux, des œuvres orphelins. Mais les œuvres mettant en droit d'auteur, celles qui sont hors du droit d'auteur. Vous avez trouvé une évolution par rapport à ce qui arrive avec les œuvres orphelins. Bon, il y aura un fonds qui aurait été créé. C'est peut-être une façon de voir ça, un peu comme le registre des droits numériques. Mais c'est les œuvres en droit d'auteur, pas seulement ce qu'on a eu dans le passé, mais l'économie vers laquelle on se dirige, là, qui me préoccupe lorsqu'on utilise des mots tels que. Et ce n'est pas une question d'établissement et d'enseignement là, qui me préoccupe. C'est le caractère flagrant de Google ou d'autres là, qui disent maintenant, on a du jeu, le jeu nécessaire pour le faire, et si ça ne fait pas votre affaire, on verra en cours. Mais nous, on n'aura pas l'argent pour contester devant les tribunaux par rapport à ces gens-là qui vont aller très vite et qui vont être trop gros pour qu'on s'attaque à eux. Bon, j'ai une question qui vient un peu d'Ernie, peut-être. Je pense au jour où j'étais à l'université étudiant. J'avais pas d'ordinateur lorsque je suis arrivé à l'université. J'allais à la bibliothèque et je faisais de la recherche. Je cherchais des articles ou des livres. Et c'était un peu long, là, pour aller à la bibliothèque et faire ce travail Google. Les étudiants, aujourd'hui, ont l'occasion en or. Ils peuvent faire la même chose que j'ai faite, mais ils peuvent aller directement à Google ou à un autre moteur de recherche et trouver l'information que je cherchais, moi, où je devais aller à la bibliothèque pour trouver. Même chose pour les établissements qui ont des collections en ligne, les mêmes revues où ils auraient trouvé des articles. Donc, il me semble qu'il faut faire bien attention lorsqu'on cherche cet équilibre, qu'on ne limite pas ces opportunités-là. Maintenant, vous avez parlé de ça un peu plus tôt. Vous en avez fait un défi. Comment concilier, donc, le besoin de protéger les auteurs sans, toutefois, limiter les possibilités qui existent pour le grand public, qu'il s'agisse d'étudiants, de consommateurs, peu importe, qui ont accès à ces outils. Les mêmes outils qu'on aurait utilisés gratuitement, d'ailleurs, il y a 20 ans, 25 ans. Mais aujourd'hui, on peut le faire de chez soi, de notre bureau. Bon, c'est difficile à répondre en 4 minutes, là. L'Union des écrivains estime que l'utilisation équitable, ça existe, c'est déjà réglé, surtout avec la décision de la Cour suprême. Et que vous avez déjà là l'équilibre en question. On comprend mal ce que la violation de l'accès des droits des utilisateurs, qu'est-ce que ça a à voir avec l'utilisation équitable telle que ça existe au Canada en ce moment? Je ne suis pas convaincu. Bon. Je ne vais peut-être pas parler de l'utilisation équitable, mais plutôt d'une perspective très pragmatique. Vous, comme étudiant aujourd'hui, vous pouvez aller utiliser Google, mais pouvez-vous utiliser le livre Google, Google Book? Non. Comme étudiant, pouvez-vous avoir accès aux revues numériques? Oui. Si la bibliothèque, pour une raison ou pour une autre, financière notamment, ne peut pas avoir licence pour cet abonnement-là ou maintenir son abonnement, vous auriez accès à tous ces volumes-là sur les étagères. Ça disparaîtra pas, mais ça va disparaître lorsque la licence n'est pas renouvelée. Donc, vous devenez un étudiant différent. Vous avez des avantages, oui, mais aussi des désavantages dans cet environnement-là moderne. Nous, qui dirigeons les établissements d'enseignement, essayons d'avoir cet équilibre entre ce que peuvent faire les étudiants, mais ça, tous les jours. Tout comme vous aviez accès aux documents dont vous aviez besoin, tout en protégeant cet accès, parce que dans un monde numérique, c'est très éphémère dans certaines circonstances. Un exemple de quelqu'un qui faisait du travail récemment. On a beaucoup de journaux en ligne aujourd'hui. Autrefois, j'aurais été obligé de consulter ces journaux-là page par page pour trouver quelque chose sur microfilm, peu importe. Récemment, un étudiant a fait ça en moins de 3 heures, 100 journaux, là, sur 10 à 100 ans de ces journaux-là. En utilisant les mots-clés, là, ça m'aurait pris des mois à faire ça. Donc, il y a des avantages. Mais ils pourraient disparaître si on ne les protège pas. Dans le secteur éducatif, on est dans les deux camps. On veut que ces gens-là prospèrent. Voilà, le type ici relève de moi. Je veux qu'elle prospère parce que le University of Alberta Press est très important pour nous. Mais on veut aussi que cette personne-là devant moi ait les avantages voulus, qui ont toujours existé d'ailleurs pour les étudiants, mais d'une façon un peu différente aujourd'hui. Est-ce bon? Je ne veux pas trop insister sur ce que dit Bernie, mais quelque chose qui a beaucoup changé par rapport à quand vous étiez étudiant et quand je l'étais, moi. C'est la disponibilité de nouvelles informations et la rapidité avec laquelle vous pouvez les consulter. Je suis dans cette industrie-là depuis assez longtemps pour pouvoir porter un jugement. Les étudiants, donc, aujourd'hui, il y a plus d'étudiants qui sont capables aujourd'hui. Vous voyez des étudiants qui sont pas des étudiants aujourd'hui, un professionnel demain, mais ils font une transition plus en douceur là, d'étudiant à universitaire ou à chercheur, enfin quelqu'un qui fait une contribution au domaine où il évolue, elle évolue. On se serait attendu à ça autrefois, à des étudiants seulement au niveau de la maîtrise du doctorat, mais aujourd'hui, il y a plus d'étudiants qui font des projets de recherche que jamais en raison de la disponibilité de cette technologie. Comme Ernie l'a dit, ils sont gardés à l'écart de certaines choses, ces étudiants-là. Et nos universités sont des domaines de découverte. Là, ici, on peut, ces gens-là, peuvent, ces étudiants peuvent avoir accès. Là. Je peux vous garantir que ça va donner de bons dividendes, ça, dans les années à venir. Bon, Jane, dernier mot avant le mot de la fin. Là. Comment trouver une façon de payer, là, que les choses soient disponibles tout en étant indemnisées? Pendant longtemps, l'industrie demandait le paiement pour utilisation publique. Ça existe encore, mais ça s'appelle maintenant les droits de prêt public. Les deux ont longtemps discuté de la façon de mettre en place ce système d'indemnisation-là. Autrefois, ça s'appelait paiement pour utilisation publique, et maintenant, c'est paiement, droit de paiement public. Maintenant, on devrait peut-être avoir cette discussion à nouveau, mais par rapport à un support différent dans le cadre plus large de la propriété intellectuelle. Bon, pour terminer rapidement, je veux vous remercier tous d'avoir pris le temps, donc vous qui êtes très occupés, de venir ici une belle journée, de s'asseoir loin du soleil, parler d'une question fort complexe, comme on l'aura vu. C'est un partie très importante du processus, de discuter des questions, donc voir où on est d'accord, où il y a un certain accord qui peut être auquel on peut arriver. Donc, merci beaucoup donc à vous tous d'être venus.